nous avons 200-300 000 kilomètres de câbles dans notre cerveau. Enfin, si on est normal, hein, mais ça fait quand même pas mal. C'est-à-dire qu'on est vraiment fait pour la communication, on est fait pour la relation. C'est vrai pour le bébé, c'est vrai pour l'adolescent qui réclame absolument à corps et à cri que ses parents lui parlent. En même temps que quelquefois il se ferme parce qu'il n'est pas content de ce qu'on lui dit. Ça, c'est autre chose. Papa ne parle que pour nous engueuler, alors pourquoi mes parents ne me comprennent-ils pas quand je ne dis rien, me disait un adolescent. Je raconterai bien tout à ma mère, mais après elle court le raconter à mon père. Et surtout la dramatique de l'adolescence, c'est quand un père ne lui a jamais dit « je t'aime ». Mon père m'a jamais dit qu'il m'aimait. Et quand je vais voir le père, il me dit « il voit pas, non ? Pour qui je travaille, moi ? Je rentre le soir à telle heure, c'est pas pour lui, non ? Ah, vous ne le lui dites pas, il ne le sait pas. Peut-être que votre femme non plus, d'ailleurs. Bon. C'est une question importante pour l'ado, c'est une question capitale pour le couple. On peut dire que la communication, c'est une question de vie ou de mort pour le couple. Surtout que les couples sont appelés à vivre au moins 50 ans ensemble, et c'est pas possible qu'ils vivent 50 ans ensemble sinon ils n'embarquent pas avec eux cet outil de réadaptation aux évolutions inévitables de l'un et de l'autre qu'on appelle la communication. Un exemple, vous allez mieux comprendre, ce gars qui me téléphone, il me dit, c'est un ami, qu'est-ce que tu fais pour les 45 ans? Bon, je dis, rien de spécial, mais enfin, je peux aller t'écouter. Parce qu'il faut savoir qu'à 45 ans, les hommes font souvent une crise d'adolescence. Il faut être très attentif. Alors, je vais chez lui, entre la poire et le fromage, il dit devant sa femme éberluée cette phrase, c'est parce que j'ai un mal-être. J'ai l'impression que je voudrais aller vivre sur une île déserte avec une belle pépée. Mais, vous voyez la tête de l'épouse, que j'ai rassurée tout de suite. J'ai dit, t'as de la chance, tu sais ce qu'il a. Non, mais c'est vrai, tu sais ce qu'il a. Il ne te couvre pas un cancer, il n'est pas en chômage. Tu sais ce qu'il a. Tu vas lui dire, tu veux une belle pépée, tu vas la voir. Moi, je vais ravaler la façade. On fera un petit voyage aux Canaries, et puis c'est réglé. Mais vous ne pouvez pas vous situer à côté de quelqu'un qui ne dit rien. Quand c'est que vous, les hommes, vous comprendrez ça? Qu'une femme ne peut pas se situer à côté d'un mari qui dit rien. Heureuse l'épouse qu'un mari qui rentre, qui dit, tu sais, je me suis disputé avec le contremaître, t'as pas intérêt à te flanquer dans mes pattes. Elle sait quoi faire. Mais le même qui dira le lendemain, attention, tu sais, je rentre à la maison, il me tarde de te retrouver, c'est fou ce que j'ai envie de t'aimer. Elle sait quoi faire. Elle arrête la machine à laver. Bon. Vous voyez, on peut pas se situer à côté de quelqu'un qui ne dit rien. On peut pas se situer. Alors on fantasme. Alors les femmes sont douées pour fantasmer. Hein? Quand vous faites une drôle de tête, qu'est-ce qu'il a? Alors elle invente des tas de choses. Elle en voit même plus qu'il y a. Ça va pas, t'es malade, t'as une crise de foie. Je vais te faire une tisane, tu parles. On peut pas se situer à côté de quelqu'un qui ne dit rien. Hors de la communication, pas de salut pour le couple. Évelyne disait, quand on ne parle plus, on finit par n'avoir plus rien à se dire. Quand on cesse de se regarder, on finit par ne plus se voir. Et tout ça, ça se fait sans aucune faute de conscience. Le péché d'omission est le plus terrible. Ce qui tue un foyer, ce sont pas les querelles, les difficultés, le manque d'argent. C'est même pas toujours l'infidélité, c'est la routine. C'est quand on ne se regarde plus, c'est quand on ne se parle plus, c'est quand on ne se dispute même plus, et tout ça, ça se fait inconsciemment. Oui, question de vie de mort, ça a été le génie du père Caffarel d'avoir compris que c'était capital le devoir de s'asseoir, que c'était quelque chose d'essentiel pour la survie des couples. Question de vie, question d'adaptation, ça permet pour vous de faire le point, de réajuster vos comportements. Vous prenez du recul par rapport à ce que vous vivez. On n'a souvent pas le temps. On vit, mais on n'étudie pas ce qu'on vit. On ne réfléchit pas sur la façon dont on vit ce qu'on vit. Et le devoir de s'asseoir vous le permet. Ça évite combien de malentendus. Vous savez, il y a des gens qui prêtent à l'eau des intentions machiavéliques parce qu'on n'a pas parlé. Et puis, moi je dirais que ça permet l'émerveillement. Ça permet l'émerveillement, oui.